Retour à question d'actualité sur les ondes de Radio VM, vous êtes en compagnie de Jean-Philippe Trottier. On a coutume de penser que la théorie du genre est en opposition frontale avec les enseignements du christianisme. C'est vrai jusqu'à un certain point, on le verra, mais ça n'empêche pas de chercher quelques passerelles entre les deux, notamment autour de l'unicité de chaque être humain et de chaque expérience personnelle. Simon Lessard y a réfléchi longuement, il est responsable de l'innovation et rédacteur à la revue et au magazine Le Verbe. On peut voir, lire ses réflexions, notamment sur christianisme et transgenre, sur le-verbe.com. Simon, bonjour.
Bonjour Jean-Philippe.
J'ai l'impression souvent que, comme la société bouge si vite, les progrès ou reculades, ou, enfin les changements sociétaux obligent les chrétiens à, pas se remettre à la page, mais à confronter et à voir comment leur doctrine peut, non pas s'adapter, mais peut se dialoguer avec ce monde en perpétuel changement. Et la théorie du transgenre est vraiment un exemple parfait pour ça.
Ben oui, mais c'est vrai, Jean-Philippe. Et puis, si on regarde l'histoire du christianisme, 2000 ans, l'histoire de l'Église, c'est souvent lorsque des pensées nouvelles ou même contraires au christianisme émergent que les chrétiens eux-mêmes se remettent en question et ça leur donne l'occasion d'approfondir leur propre foi. Donc, ce n'est pas qu'une mauvaise nouvelle. On peut toujours en tirer quelque chose de pertinent pour nous.
Comme disait saint Paul, « Oportet haereses esse », il est important, il est bien que des hérésies surgissent parce que ça nous oblige à affiner notre foi, notre doctrine, ce qu'on pense. Quelques mots sur la théorie du genre, on dit tout et son contraire là-dessus. Est-ce qu'il y a une définition bien précise ou pas?
Ben, la théorie du genre, Jean-Philippe, première des choses importantes à dire, là, c'est pas l'idée de nier qu'il y a des sexes biologiques, mâles ou femelles, mais c'est de vraiment opérer une distinction entre le sexe biologique et ce qu'on appelle le genre. Le genre qui est un concept inventé autour des années 70 par les sciences sociales pour désigner ce qu'on appelle l'identité sexuelle, qui, elle, serait seulement construite à partir de facteurs non biologiques, donc sociaux, culturels.
Donc, il y a nature et culture qui s'opposeraient dans cette théorie du genre. C'est une énième mouture de cette question de nature-culture, non?
Oui, on peut dire que la fameuse querelle entre ancien et moderne n'est terminée. Elle continue. Donc, on a toujours reconnu que dans le sexe ou le genre, là, on sait plutôt quel mot utiliser, il y a une part de culture. Mais l'idée ici est vraiment d'opérer, je dirais, une séparation entre les deux et de dire que ce n'est pas simplement une part de culturel, mais c'est totalement culturel que le genre.
Donc, un transsexuel, comment est-ce qu'on peut définir un ou une transsexuelle, Simon Lessard?
Ben, en fait, il faut plutôt le laisser ou la laisser se définir parce qu'au point où la théorie en est rendue aujourd'hui, il n'y a plus simplement deux genres, hommes et femmes, mais on va dire, en fait, chaque personne peut créer ou inventer son propre genre. Et donc, il n'y a aucun facteur biologique qui permet d'identifier un genre ou l'autre. Sinon, on serait obligé, suite à un test physique, de dire qu'une personne qui se sent transgenre, par exemple, ne le serait pas. Donc, on va dire non, c'est simplement un geste d'autodétermination uniquement au niveau de la pensée.
Est-ce qu'on est là dans le paradigme du « je m'invente moi-même » Sartre, qui parlait, le philosophe Sartre parlait de l'existence précède l'essence. On n'est pas des héritiers d'un message ou d'une identité ou d'une volonté divine. C'est moi-même, Simon, qui vais décider à quel genre j'appartiens. On a inversé l'équation?
Oui, j'ai vraiment l'impression qu'on retrouve l'existentialisme qui était à la mode dans les années 60 sous une forme légèrement nouvelle. Donc, Simone de Beauvoir qui disait, par exemple, qu'on ne naît pas femme, on le devient, même si ici, on travestit, sans vouloir jouer sur les mots, un peu son expression. Vraiment, l'idée que l'homme ou l'être humain est totalement libre. Pour Sartre, la liberté, c'est noir ou blanc, il n'y a aucune zone de gris. Soit on est totalement libre, soit on est totalement déterminé. Donc, si on est totalement libre, à chacun de définir sa propre nature.
Oui, donc Simone de Beauvoir disait « on n'est pas femme ». Elle piquait l'idée de Tertullien, du reste, au 3e siècle, ou 3e ou 4e siècle. C'est-à-dire, elle parlait des facteurs sociaux qui formataient une identité féminine. C'était pas une libération, c'était plutôt une contrainte dans la bouche de Beauvoir, mais dans celle de Sartre, c'était différent, évidemment. Mais tout ce que vous dites maintenant sur la théorie du genre, en quelques mots, là, parce qu'on n'a pas le temps, j'ai l'impression que tout ça est en opposition frontale avec le christianisme. Dieu a créé l'homme, homme et femme. On hérite de quelque chose. On ne va pas commencer à jouer là-dedans.
Non, c'est vrai, vous avez raison, Jean-Philippe. À première vue, ce sont deux visions de l'être humain irréconciliables, ou en tout cas, certainement fortement opposées. Et ce n'est pas ce que je veux nier aujourd'hui, ici, là, dans cette entrevue. Vraiment, d'un côté, on cherche à construire son identité. À l'autre, on pourrait dire davantage à la découvrir et à l'accomplir. Comme vous le disiez aussi, dans la vision chrétienne, l'être humain est une créature. Il n'est pas lui-même le créateur. Et donc, c'est un paradigme complètement différent.
On peut lire vos propos sur le-verbe.com, Simon Lessard, donc de la revue et du magazine Le Verbe. Si je vous comprends bien, bon, nous ne sommes pas, en christianisme, nous ne sommes pas que des êtres passifs. Dieu a créé ici, Dieu veut ceci pour nous, et nous, on n'a qu'à dire Amen, et puis c'est fini. Je veux dire, on peut, rien ne nous empêche quand même d'interpréter, je pense que c'est votre mot à vous. On reçoit une partition, mais c'est à nous de l'interpréter sur Terre. Est-ce que je vous comprends bien ou pas?
Oui, exactement. Donc, on a une nature, mais cette nature-là n'est pas encore achevée. Il y a tout un chemin à faire sur Terre et qui peut, pour le chrétien, aboutit dans un autre monde qu'on appelle le ciel. Donc, l'être humain est libre. Il n'est simplement pas totalement libre au point de devenir lui-même créateur. Donc, il est davantage, en tant que chrétien, co-créateur. D'ailleurs, on parle aussi de procréation pour manifester la participation de l'homme dans la venue d'un nouvel être humain, par exemple.
Mais un transsexuel, Simon Lessard, je ne suis pas sûr de vous comprendre, un transsexuel n'est pas... il ne veut pas imiter le geste divin de se donner à lui-même un sexe, il le ressent comme ça. Donc là, encore une fois, c'est son ressenti qui le précède. On ne peut pas on ne peut pas changer le mot « Dieu » par « ressenti ».
Bon, encore là, il y a différentes écoles, si je peux dire, dans la théorie du genre. Il y a celle plus classique, on va simplement dire que cette personne sent un malaise et elle cherche à identifier justement son vrai genre et à y correspondre davantage. Mais de plus en plus, on va vers des identités multiples et fluides où là, vraiment, il s'agit de forger sa propre identité de genre. Et bon, parfois même, on voit des conflits ou des combats idéologiques à l'intérieur même de l'école, c'est un peu compliqué de fait.
Oui. Écoutez, on va se concentrer. Il nous reste encore un bon 13-14 minutes, Simon Lessard. Concentrons-nous sur les points de convergence. Parce que ça, on l'entend moins souvent, ça, dans le débat. En tant que christianisme et théorie du genre, il y aurait des passerelles quand même.
Pour ma part, je ne l'ai jamais entendu et c'est pour ça que je me suis penché personnellement sur la question parce que en tant que chrétien, je souhaite être en dialogue avec le monde, la culture contemporaine et avec des personnes qui peuvent adhérer à cette théorie ou même se dire ou se sentir transgenre. Et donc, je pense qu'il faut trouver des points, peut-être pas de gommer les différences, mais de trouver des intuitions, des pensées, des désirs communs qu'on partage comme des lieux de dialogue.
Bon, alors, comment allez-vous faire?
Allons-y.
Oui. Vous m'intriguez.
Le premier, je dirais, c'est cette expérience de dysphorie. Dysphorie qui vient du grec dys et phéro. Phéro, c'est porter, donc c'est quelque chose qui est difficile à porter, difficile à supporter. Cette expérience de division intérieure que ces personnes ressentent, c'est très inconfortable, c'est émotif. Les chrétiens ont toujours reconnu cette expérience-là. Simplement, ils l'interprètent différemment. Ils vont dire que l'homme, effectivement, se sent divisé en lui-même, et que cela peut venir de différentes causes. Ça peut venir de la nature humaine qui est brisée après le péché originel. Ça peut venir de chacun de nos péchés personnels qui nous divisent dans notre psychisme. Et ça peut venir aussi ontologiquement, donc pas d'un point de vue éthique, du fait qu'on est fait pour un autre monde, qu'on est fait pour le royaume des cieux, et que donc tout chrétien sur Terre se sent, disons, en exil, se sent pas à sa place, sent qu'il y a quelque chose qui cloche en lui-même.
Simon, je vous écoute, mais j'ai envie de vous dire une chose, c'est que quand on parle d'identité sexuelle ou de genre, j'ai l'impression qu'on est dans du plus concret. Là, vous me parlez de péché, d'unité, de l'être, de chemin. Je ne sais pas si vous avez dit sainteté, mais j'imagine que ça rentre là-dedans aussi. C'est le vieux vocabulaire classique qui me semble un peu abstrait pour aujourd'hui. Je vois mal les passerelles que vous pouvez établir entre la théorie du genre et le christianisme. D'un côté, on est vraiment dans le physique le plus complet et le ressenti, le psychologique. Et d'un autre côté, on a des catégories beaucoup plus métaphysiques, beaucoup plus anciennes. Je vous suis mal, là.
Ben, je pense que c'est d'opérer une distinction, non pas entre le sexe et le genre, mais moi, je propose une autre distinction entre l'expérience, oui, oui. le vécu ou le ressenti d'une personne oui. et l'interprétation qu'elle fait de ce vécu ou de ce ressenti. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que cette expérience de se sentir mal dans sa peau ou de sentir qu'il y a quelque chose qui ne fit pas en nous, les chrétiens l'ont identifié depuis des siècles. C'est pas quelque chose de nouveau. Simplement, on donne d'autres causes et d'autres solutions à cette expérience intérieure.
Et un autre vocabulaire aussi.
Un autre vocabulaire, tout à fait. Mais l'intuition ou le malaise peut être similaire.
On peut lire vos propos dans letraitdunionverbe.com, Simon Lessard, sur cette question de christianisme et de théorie du genre. Le chrétien est... il y a eu un maître mot, si j'ose dire, c'est l'unité. Mm-hmm. Diriez-vous qu'une personne transgenre, dans tout le kaléidoscope qu'il peut y avoir là-dedans, est également en quête d'unité dans sa quête d'identité sexuelle?
Je le pense, oui, parce que les deux visions de l'homme ont ceci en commun, qui reconnaissent, je dirais, que chaque personne est fondamentalement unique et que donc elle se sent mal à l'aise quand on veut la mettre dans une petite case, que ça peut être homme ou femme. Elle sent qu'elle a quelque chose où on ne peut pas être réduit simplement à un groupe, justement. Et donc, justement, cette théorie qui veut créer des nouveaux genres presque autant qu'il y a d'individus, peut-être qu'elle est en train de redécouvrir cette vérité que chaque être humain a quelque chose de fondamentalement unique. En termes chrétiens, c'est la quête de sainteté. Donc, la quête de sainteté, ce n'est rien d'autre que de devenir 100% pleinement soi-même, donc avec l'aide de Dieu, avec l'aide de la grâce de Dieu. Évidemment, ce n'est pas quelque chose que l'on fait seul, mais c'est la même idée, je pense, ou la même intuition, le même désir de ne pas être réduit à un groupe, mais de reconnaître qu'on est précieux, qu'on est une créature vraiment unique.
Quand il y a Dieu dans l'équation, je comprends, on est unique pour Dieu ou par Dieu. Mais la théorie du genre pour laquelle Dieu est une... Ça peut arriver, ça peut ne pas arriver. On est dans le morcellement identitaire parce que chacun veut échapper aux catégories générales, mais il s'invente une toute petite catégorie à lui que personne d'autre ne pourra percer ou avec laquelle il ne pourra pas dialoguer. Il sera tellement une île solitaire. Comment voulez-vous que toute cette multiplicité d'identités puisse se placer sous un chapeau d'une unité? Ça, c'est la question chrétienne. Je ne sais pas si on se la pose dans la théorie du genre.
Ouais, vous avez raison, Jean-Philippe. Je ne suis pas en train d'essayer ici de montrer les points de divergence, mais de convergence. Donc, oui. Je pense effectivement que le fait de vouloir créer un genre nouveau risque d'amener à une impasse à long terme. Mais ici, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il y a une intuition ou un désir commun, le fait de sentir qu'on est unique à la base et que donc, on ne peut pas être réduit, je dirais, à une catégorie.
Vous parlez de fluidité, Simon Lessard, des identités. On n'est plus de soit homme, soit femme. Et à la limite, on n'est pas soit homo ou hétérosexuel. Les choses sont beaucoup plus visqueuses, ambiguës, mouvantes. Je veux dire, c'est un vocabulaire purement chrétien aussi. L'être humain n'est pas... On est en chemin ici-bas, on peut tomber, remonter. Enfin, il y a vraiment un parallèle à faire, là.
Oui, je pense. Donc, pour les chrétiens, comme pour les personnes qui adhèrent à la théorie du genre, l'homme ou l'être humain est vraiment un être changeant ou capable de changement, en tout cas. Et pour les chrétiens, des fois, on va dire être en chemin. Donc, les deux visions admettent vraiment qu'on peut changer, rechanger. Les chrétiens vont dire convertir, déconvertir, reconvertir plusieurs fois dans la même journée, même des fois.
Oui, oui.
Donc, il y a vraiment... Mais derrière ça, il y a quelque chose de très beau, c'est qu'il n'y a absolument rien d'irréparable, rien d'irrécupérable. Rien d'impardonnable. Tant qu'on est sur Terre, le changement est toujours possible. Et le changement n'est pas bon en lui-même, mais il est bon quand on progresse vers le bien, vers le beau, vers le vrai, vers l'authenticité. Et donc, tout ça est assumé, je dirais, aussi dans la pensée chrétienne. Même chose, vous le mentionnez, de plus en plus avec la théorie du genre, on reconnaît que même les attirances ou orientations sexuelles peuvent être fluides, peuvent être modifiées. on va dire, c'est pas nécessairement tout le monde, mais chez certaines personnes, c'est possible. Et il y a là quelque chose aussi de similaire avec la pensée chrétienne, où nos désirs ou nos habitudes ne sont pas nécessairement prédéterminés dans notre nature par des gènes, mais dépendent d'actes et de répétitions d'actes. Et que donc, certaines expériences peuvent bâtir des désirs, d'autres, de nouvelles expériences pourraient peut-être les modifier.
Oui, j'imagine. J'imagine, on peut lire vos propos, Simon Lessard, dans le trait d'union verbe.com. Il y a aussi, dans l'infinie multiplicité que porte la théorie transgenre, des gens qui vont être se reconnaître d'un genre, mais sans attirance sexuelle, vous y faisiez allusion, sans attirance sexuelle pour le même genre ou un autre genre. Si je comprends bien, il n'y a même plus deux genres, il y a une multiplicité de genres. Je serais moi-même, à la limite, un genre unique. Je reviens à ma question. Vous ne craignez pas le morcellement? C'est bien beau, chacun est unique, mais il faut quand même être sur un même continent.
Oui, vous avez raison. La difficulté, c'est de recréer l'unité. Parlais avec un ami dernièrement qui dialoguait avec quelqu'un qui adhérait à cette pensée et qui lui disait, il lui posait la question, selon ton propre système de pensée, qu'est-ce qui m'empêche de me définir, par exemple, comme un papillon? Et c'était pas ridicule, c'était une vraie question. De manière très sérieuse, on lui a répondu absolument rien, sauf que ton défi sera de te faire reconnaître par une communauté de papillons. Donc, et là est peut-être la limite de cette théorie. Et c'est pour ça que, chez les chrétiens, on ne va pas créer cette distinction entre sexe biologique et identité sexuelle qu'on appelle le genre. On va plutôt parler de personnalité. La personnalité est unique et le sexe, lui, est donné par la nature et on ne sent pas le besoin de créer cet intermédiaire qui est le genre.
La théorie transgenre se fait fort de faire un discours sur tout ce qui l'a précédé. Enfin, chaque théorie, chaque doctrine, chaque idéologie se met à nommer le monde selon son propre vocabulaire, ce qui est bien normal. Pour la théorie transgenre, le sexe est un construit social, ou le genre, enfin peu importe.
Le genre, oui.
Le genre est un construit social. Mais est-ce que la théorie transgenre elle-même pourrait l'appliquer à cette théorie? Elle-même est une construction sociale. C'est pas seulement, il n'y a pas une essence transgenre, c'est aussi le résultat d'une évolution culturelle.
Bon, là, Jean-Philippe, vous me ramenez du point de vue de la critique, alors que moi, je cherchais à créer des ponts, mais oui, vous avez raison. C'est-à-dire que hommes et femmes sont des catégories beaucoup plus universelles qu'on retrouve en tout temps et en tout lieu de l'histoire humaine, alors que des catégories comme genre ou transgenre sont absolument nouvelles. Alors, évidemment, si on pose la question laquelle de ces catégories a le plus de chances d'être un construit social, je pense que poser la question, c'est d'y répondre. Et si on dit que tout construit social doit être critiqué, alors cette théorie-là doit elle-même être critiquée parce qu'elle est au final peut-être le fruit d'une certaine culture, d'une certaine pensée dans laquelle elle est apparue.
On va terminer sur un point de convergence qui vous est très cher, Simon Lessard. Qu'est-ce que la pensée chrétienne peut retirer? Vous avez parlé de la théorie du genre, vous avez parlé de... on est en perpétuel devenir, en conversion, reconversion perpétuelle, on n'est jamais arrivé au but, on a un chemin de sainteté, on est unique. Tout cela, est-ce que la théorie transgenre peut aider les chrétiens à se définir davantage, à enraciner davantage la théorie qui est la leur?
Oui, je le pense, Jean-Philippe. C'est-à-dire que notre tendance, je dirais, est de refuser le mouvement. Donc, de vouloir se figer soi-même et aussi de vouloir figer les autres. Et de se sentir tout de suite mal à l'aise lorsqu'on est face à une personne qui est en chemin ou qui est en mouvement et de le voir comme une menace. La question n'est pas de dire si le changement ou le mouvement est bon ou mauvais. Nous avons besoin de changement. Cela fait partie même de la réalité humaine et c'est partout dans le mystère chrétien. On parlait tout à l'heure de conversion. Même le mot « trans » se retrouve dans les mystères chrétiens. On parle de transfiguration, de transsubstantiation, par exemple, dans les sacrements.
Transfiguration, oui.
Tout à fait, dans l'expérience mystique, l'idée est plus vers quoi s'oriente ce mouvement-là. Et est-ce que, par rapport, lorsqu'on vit une dysphorie intérieure, est-ce que c'est davantage en changeant notre corps ou notre apparence que l'on résout cette tension intérieure, ou est-ce que c'est davantage en changeant justement sa pensée, son regard sur soi, qu'on arrivera à davantage d'unité intérieure?
Ouf! Quelle réflexion, Simon Lessard.
C'est un peu abstrait, hein, Jean-Philippe.
Non, mais c'est drôlement intéressant. Et pour les gens qui nous écoutent et qui veulent en savoir davantage, Simon Lessard, vous avez écrit un texte là-dessus sur le site du magazine Le Verbe, donc le-verbe.com, dont vous êtes également responsable de l'innovation et rédacteur. Merci beaucoup, Simon. On vous retrouve dans quelques semaines.
Merci. À bientôt, Jean-Philippe.
Au revoir, Simon. Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, petit manuel de wokisme et la semaine politique québécoise et canadienne. À la régie, Daniel Fortin. Ici Jean-Philippe Trottier. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain. Et entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio-VM.